c'est ta bouche qui m'apporte ma joie de vivre. Et ma chance, c'est de vivre rien que pour toi. Que m'importe si tu m'aimes moins que moi? Moi, je t'aime comme on aime qu'une fois. Et je reste prisonnière, prisonnière de tes bras. Comme prima, tu me donnes tant de joie. La notte, comme allora.
Et bien le bonsoir, monsieur Kogan. Bien le bonsoir, madame Ginette. Bien le bonsoir, monsieur Edmond. C'est Je m'ennuie bien qui commence. Nous sommes ensemble pour une heure de bonheur, de joie. Allez, peut-être.
Pourquoi
de temps
pas
gris.
Le monde va bien, donc nous aussi. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Bonsoir.
Oh, oh la vache. Qu'est-ce que vous avez mangé, monsieur Kogan?
Bon, rien. Les sandwichs de fin de manif, c'est pas terrible.
Les merguez aux pneus.
Ça y est, encore un végétarien qui s'est retrouvé au barbecue, ça.
Alors, vous ne croyez pas ce qu'il vient dire?
Ah, je sais pas, vous devez avoir la tête d'un gars qui aime la barbaque, c'est tout.
Exactement ça.
Allez, on attaque parce que j'imagine que tout le monde a ses chroniques chaudes et prêtes à l'emploi. Donc, alors, j'ai trouvé deux titres qui m'ont fait rire, donc je les ai pris, même si je fais plus mes titres, mais enfin, quand même. Des avocats attaquent Nicolas Sarkozy après ses attaques contre la justice au nom de l'état de droit. C'est rigolo.
Waouh, alors attendez, c'est beaucoup trop complexe.
Voilà. Inception.
Plus simple, madame Ariette, plus simple. Les éboulements en montagne, source de nuisances durables pour les habitants.
Ah oui, ça c'est sûr. Quand on a un gros caillou sur sa grange, c'est déplaisant.
Alors, moins rigolo, je voudrais quand même dire que ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale... Je trouve ça... Je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais enfin...
Alors, monsieur Edmond, là, il va falloir être un tout petit peu plus précis.
Mais je vais être précis.
Il va falloir contextualiser.
Alors,
parce
c'est
que
très simple.
Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, ça peut être plein de choses.
Oui, ben, je vais être très clair. On a un président qui s'est fait élire en disant « Je fais barrage au machin national rassemblement FN ». Bon, très bien. Et là, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est que le socle commun, n'est-ce pas, donc les macronistes et puis des mecs de droite qui ont eu trois pelés à l'Assemblée nationale, se sont mis d'accord avec le fameux Rassemblement national FN pour mettre des postes, donc pour mettre au poste des présidents de commission, puisqu'ils étaient renouvelés, tous les mecs de droite. Et en échange, eh bien, le Rassemblement FN avait droit à des vice-présidences. Voilà. Voilà comment sont remerciés les électeurs qui ont fait barrage au rassemblement machin bidule.
Eh bien, on voit les limites du génie hydraulique.
Ouais, c'est ça. Allez, c'est pas de ça que je voulais vous parler. Je suis quand même allé sur le site de l'Assemblée. J'ai trouvé un rapport, une fois de plus, magnifique. Et je vais vous parler d'un gars qui a un peu disparu des écrans radars, contrairement à certains drones. Le 18 mars 2017, naissait l'idée du...
Pardon, le 18 mars
2017, naissait l'idée du... Ah oh bah dites donc, ça, je vois que ça a marqué les esprits.
Je ne sais pas, 2017
C'était un discours prononcé par Monsieur Emmanuel Macron à l'Hôtel des Arts et Métiers alors qu'il n'était pas encore président.
C'était son projet ?
Alors son projet, mais plus précisément, il
la
annonçait...
La Startup Nation ?
Mais non, beaucoup mieux. Un truc qui a révolutionné la France, comme vous le verrez, comme l'a dit plus tard Monsieur Attal. Le SNU !
Ah, le SNU !
Le SNU. Alors, le rapport, est... évidemment, on va entendre des choses dont on avait déjà entendu parler de loin, mais vous allez voir, c'est quand même... Je ne sais pas pourquoi M. Emmanuel Macron s'est attaché à cette idée, mais à corps et à cri, j'ai envie de dire, hein, puisque même en 2022, lors de sa réélection, il y était encore. Hein.
Cette phrase
Sébastien est... le corps SNU.
Oui, c'est ça, c'est complètement bizarre. S'est attaché à cette idée à corps et à cri. Vous, en ce moment, vous regardez des vieux classiques, comment
le
ça
corps
se passe
nu et à cri, alors, comme vous voulez. Alors, la reconnaissance, évidemment, du statut d'objecteur de conscience, 63, réduction du service à 16 mois, et tout ça, bon, on a un petit rappel de comment a disparu le service militaire. Ah bon,
oui.
Alors, dans les années 70, Bien, les dispenses arrivent, on peut faire un service civil. Il y a déjà plus personne qui va vraiment sous les drapeaux. À la fin des années 80, on estime même que seulement 50% d'une classe d'âge est sous les drapeaux. Donc, bon, bah, après, M. Chirac, carrément, il met fin à tout ça.
Oui, oui. Ah.
La mixité sociale n'existe plus.
Je ne sais pas combien ont fait leur service national autour de, derrière nos micros, là, mais enfin, il y en a au moins.
Ah, bah oui, bah bravo, vous êtes un fossile, monsieur Kogan.
Oui, mais bon, j'étais objecteur de conscience, ça ne surprendra personne ici. Voilà.
Et vous avez eu la chance de faire 2 ans au lieu d'un.
Alors, évidemment, l'un des problèmes, c'était l'allongement des études. Donc, les jeunes appelés n'avaient pas du tout envie d'aller faire les cocos sous les drapeaux alors qu'ils n'avaient pas fini leurs études. Donc, c'était vécu comme une punition et plus du tout comme un rythme d'entrée dans la vie d'adulte. Enfin, bon, voilà.
Et donc, alors, à quel moment ça a été un rite d'entrée dans la vie d'adulte?
Je ne sais pas. Il y a cette espèce de nostalgie, vous voyez, d'une époque, je ne sais pas. En tout cas, comme le disaient à l'époque, donc en 2018, Marianne Dubois et Émilie Guérel, qui avaient déjà fait donc en fait un petit rapport pour dire ce qu'ils pensaient de la création d'un service national universel. Eh bien, pour ces jeunes hommes, l'apprentissage des règles et de l'autorité n'était que marginal, le temps du service étant plutôt perçu comme une corvée à effectuer sous les ordres d'un adjudant Cronenbourg. Ouais, c'était la fête.
Monsieur Pifpaf.
C'est exactement. Mais bon, voilà.
Et pourtant,
référence.
Derrière le projet du SNU, une arrière-pensée transparaissait. Redresser une partie de la jeunesse jugée en manque de repères, rétive à l'autorité, incontrôlable, voire dangereuse. Serait-ce tous ces jeunes qui n'avaient pas voté M. Macron, mais FI, lors du premier tour de la présidentielle? Je ne sais pas.
Alors, le premier parti pour lequel votent les jeunes, c'est l'abstention quand même. Hein.
Ouais, mais il y avait quand même eu un petit mouvement dans la jeunesse à ce moment-là pour... Voilà. Bon, c'est pas grave. Alors, le rôle de l'armée, évidemment, nous rappelle ces deux personnes, n'est ni de ramener la jeunesse française dans le droit chemin, ni d'éduquer, ni même de la socialiser. Alors, ça tombe bien, parce que quand Emmanuel Macron a fait son discours, il avait juste oublié d'en discuter avec les militaires.
Ah, dommage !
Ouais, voilà. Alors, quand les militaires l'ont entendu, ils ont... Hein ? Quoi ? Il va falloir accueillir des jeunes, c'est-à-dire, on n'a plus de casernes, on n'a plus de personnes pour les encadrer.
C'est ça. Mais combien ? 12, 20 ?
Et en plus, excusez-nous, mais on s'est battu pour avoir un budget, c'est certainement pas pour le dépenser pour des arsouilles. Donc, évidemment, je pense qu'à peine M. Macron était élu à la présidence, que son téléphone sonnait. Oui, bonjour, c'est le général en chef des armées. Notre budget, on n'en veut pas de votre SNU, là. Comment on fait? On veut garder nos sous-sous.
Je ne sais pas si vous faites bien le général en chef des armées.
Non, absolument pas.
Je Allez-y. Vous rappelle qu'il a viré le chef d'état-major en arrivant, le général de Villiers.
Ah ben, peut-être qu'il n'a pas apprécié la remontrance. En tout cas... Rétropédalage, ça devait être l'un des premiers, hein, mais il y en a eu d'autres, évidemment, qui ont suivi.
Et voilà, c'est ça.
Et donc, finalement, le SNU, ce ne serait plus une affaire de l'armée, vous voyez. On va voir, on va faire autrement, mais on ne prendra pas sur le budget de l'armée. Ne touchez à rien, on préfère acheter des rafales. Donc déjà, ça s'était réglé assez rapidement. Il faut dire quand même que les chiffres, c'est quand même 800 000 jeunes à accueillir. C'est pas rien. Donc finalement, le cahier des charges arrive, puisque M. Macron est élu, et on ne parle plus d'un truc dans l'armée, mais d'un moment où chaque jeune, ouvrez les guillemets, aura l'occasion d'une rencontre avec les forces armées. Bonjour colonel, au revoir. Voilà, c'est très bien, c'est parfait, vous avez le SNU.
Alors, c'est le SNU, monsieur...
Ce que vous faites.
Monsieur Edmond. Je suis désolé, mais ça va m'irriter sinon.
Bon, le SNU, si vous voulez. Alors, ils ont coupé finalement en deux, donc il y avait un séjour de cohésion, et en deuxième partie, et j'adore le terme, bon évidemment, il y a eu la guerre en Ukraine après, donc c'est peut-être pour ça que ça m'amuse, partie, c'était la mission d'intérêt général, dit Madame Henriette, le MIG.
MIG.
Comment
il devait faire un MIG après un SNU.
Comment aurais-je pu deviner?
Alors là,
un MIG soviétique ou un MIG, vous savez comment?
Vous allez voir, parce qu'en fait, dès le départ, la définition du MIG, nous dit-on, était succincte et floue. Voilà. Visiblement, elle est restée jusqu'au bout. On ne sait toujours pas ce que
gros,
c'est.
En gros, on improvise.
Voilà, c'est ça. Alors évidemment, au début, c'était attention, vous allez voir ce que vous allez voir. Le SNU, si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas passer votre code, vous ne pourrez pas vous inscrire aux examens, vous ne pourrez pas bénéficier de la garantie jeune, vous ne pourrez pas avoir le chèque culture.
Et vous perdrez vos dons.
J'ai envie de dire le chèque culture, comment, enfin bon, ouais, bah maintenant, avec ou sans, vous ne l'avez pas, donc de toute manière. Alors évidemment, les estimations...
Vous entrez des supermarchés.
les estimations sur le coût de ce SNU totalement fantaisiste, 1,6 milliard, c'est le chiffre souvent avancé par an. Hein, bon, ça n'a jamais été, et vous allez voir, comme ça n'a jamais été réellement mis en place, on ne saura jamais. Et pourtant... Le 16 octobre 2018, Gabriel Attal, nommé secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer, nous déclarait, Madame Ariette, pour ce présent intempestif, que le SNU serait une réforme extrêmement puissante, sans doute la réforme de société la plus forte du quinquennat d'Emmanuel Macron.
Après, tout est relatif.
Non, mais on va dire que c'est la faute du Covid. Hein. S'il n'y avait pas eu le Covid, bien sûr que tout ça serait entré en puissance et tout ça. Alors évidemment...
la réforme la plus forte, qui en dit long pour le reste. Hein.
Monsieur Attal, qui on le sait, est un homme mesuré dans ses propos, qui ne fait pas du tout dans la communication, a vanté les mérites du SNU avant même que la consultation en ligne ne soit terminée. D'accord ? Ils ont quand même fait une consultation. Alors les jeunes, ils avaient dit, ouais, pourquoi pas, du moment que c'est pas obligatoire et qu'on puisse y aller quand on veut. Bon, ok, ça partait un peu mal quand même. Hein. C'est pas grave, Gabriel Attal dit, oui, j'ai bien lu la concertation, la jeunesse fait preuve d'un engouement et d'une adhésion totale au principe.
Total.
Ouais,
total.
Du moment que c'est au bord de la mer et qu'il y a des mojitos.
Et il annonce évidemment que... Pour le SNU, je ne sais pas comment on dit, c'était pas provisoire, c'était de test, quoi, le test SNU. C'était dans quelques départements, dont la Creuse.
Pilote
hein. Ouais, le SNU pilote, je ne sais pas. Donc, il annonce 4000 jeunes pour ses portées volontaires. Bon, finalement, ils sont 2000 à effectuer le truc. Mais bon, hein, ça peut arriver de se tromper. Hein, c'est que la moitié, après tout.
Ouais, mais les jeunes, ça mange beaucoup. Ils se sont basés là-dessus.
Voilà. Oui, et puis bon, s'ils sont venus en train en Creuse, effectivement, on en a perdu. Hein.
Alors, mais on va en reparler des transports, Madame Ariette, parce que ça a été l'un des problèmes majeurs.
Ah, mais en Creuse, vous pouvez en parler, vous pouvez qu'en parler.
Ben oui. Mais apparemment, pas qu'en Creuse, puisque 50% des jeunes, quand ils arrivaient à la gare, et après, il devait y avoir un transport qui les amenait sur le lieu du SNU, eh ben 50%, il n'y avait personne qui les attendait à la gare. Donc, ils attendaient à la gare. Voilà.
Oui, non, mais enfin, globalement,
c'est magnifique quand même.
Ils pensaient quoi? Qu'ils allaient chez mémé, qu'elle les attendrait avec une tarte aux pommes sur le quai de la gare? Non, mais ils sont mignons quand même. Hein.
C'était comme ça autrefois. Il y avait des bus qui attendaient les conscrits et qui venaient les chercher à la gare à Limoges. Moi, je me souviens de ça pour les amener au 15e.
Mais absolument, M. Kogan, sauf que là, les cars ne venaient pas. C'était mal organisé. Donc, la moitié des jeunes ont attendu les cars fort longtemps, vous voyez. Et on y reviendra. D'ailleurs, il y a même une fois où c'était tellement tragique, ils n'arrivaient tellement pas à trouver de transport que le pauvre mec qui n'était même pas militaire, hein, de la jeunesse et des sports, qui était là pour voir les jeunes, a dû débourser de sa poche l'hôtel, hein, parce qu'il fallait bien faire quelque chose de ces jeunes qui étaient en perdition complète. Alors, l'engouement, le rapport parlementaire, il dit, bon... Il faut dire quand même qu'après avoir fait des sondages et tout ça, des statistiques, on s'aperçoit que 31% de ces jeunes qui montraient un engouement passionné pour les SNU avaient des parents qui travaillaient ou dans l'armée ou avaient déjà travaillé dans l'armée.
C'est qui super. Aurait pu prédire.
Ouais, voilà. Bon, alors finalement, comme c'était hyper compliqué, rapidement, le SNU, c'était pour les jeunes de 15 à 17 ans et plus du tout pour les 18-21. Hein, parce que bon, c'était trop compliqué. Et puis, quand on est majeur, on peut dire en fait, j'ai pas envie d'y aller. Donc voilà, on n'a pas fallu prendre des mineurs qu'on allait plus ou moins obliger. En 2022, réélection de M. Macron. Et là, il est reparti à fond. Il a dit le SNU, c'est ma meilleure idée. Je sais pas, peut-être Gabriel lui a rappelé. Et quand même, c'était ta meilleure idée, Coco. Hein, faut la relancer. Eh bien, ça a fait un flop monumental, évidemment, puisqu'en plus, il y a eu la dissolution. Donc, on sait même plus qui gère le truc. puisque c'est parti du giron de l'éducation nationale dans lequel on l'avait remis, parce qu'en se disant, puisque les militaires n'en veulent pas, les profs, ils vont bien réussir à organiser des séjours de cohésion.
Oui, ils ont l'habitude des gosses.
Bah voilà, c'est ça.
Ça leur fera quelques jours de garderie en plus.
Ils ont des bâtiments, ils ont des selfs, tout ça, ça élimine plein de problèmes, vous voyez.
Puis on s'en fout d'habitude, on pourrait pas s'en foutre un peu plus.
Bah voilà.
Bah oui. De toute façon, pour changer des couches... Ah non, pardon, pas à cet âge-là.
Alors après, on a eu Michel Barnier, François Bayrou. Alors là, le SNU avait complètement disparu. On ne savait même plus qui s'en occupait au gouvernement. C'est dire. Bon. Ça n'empêche pas, en janvier 2024, Gabriel Attal, toujours lui, qui nous parle du réarmement civique, renforcer l'unité républicaine de notre jeunesse. Et donc, évidemment, qui peut faire ça ? C'est le SNU. Et il promettait à l'époque qu'il allait travailler très fort pour que sa généralisation soit effective à la rentrée scolaire 2026.
Est-ce qu'ils ont pensé à distribuer des porte-clés?
Des tote bags.
Donc pour 2026, c'est encore possible, Gabriel. Je ne sais pas où tu es en ce moment, mais écoute, je crois que tu es encore à l'Assemblée nationale. Non, il est toujours élu, donc il faut qu'il attaque fort, hein, parce qu'il ne reste plus tant de temps que ça quand même. Alors revenons sur les deux, trois pépites. Donc évidemment, l'hébergement. Pourtant, au début, ils n'avaient pas grand monde à héberger. Alors, ils s'étaient appuyés sur l'association Village Vacances Famille, VVF.
Ah, vous voyez, je vous disais le bord de mer, j'étais pas si loin.
Alors, il faut savoir que les VVF, ils accueillent des gens toute l'année, mais ils ont des plannings, des trucs. Et en général, ils comptent à peu près 18 mois pour organiser les différents séjours et trucs. Là, des fois, ils étaient prévenus 3 semaines avant, voire le jour même. C'est pratique pour s'organiser.
Oui, je crois ça va pas être possible.
Alors, j'ai gardé aussi quelques pépites pour Madame Henriette, qui concernent le paiement des intervenants pour cette fameuse journée, ces journées de cohésion. Évidemment, il a fallu rameuter des mecs. Et comme l'armée avait dit, il n'est pas question qu'un seul mec de l'active participe à votre truc. Donc, on a rappelé des militaires retraités, on a rappelé tout un tas de gens. Voilà, les gars, on ne sait pas trop des fois où on les a pris. On verra un peu plus loin. Alors, 41%, donc suite aux premières en 2023, enquête de 2023, 41% des intervenants s'estiment insatisfaits des délais de paiement. Et plus inquiétant encore, seuls 20% des répondants se déclaraient tout à fait contents des délais de paiement. Voilà, 20%, donc ça fait 80% qui ne sont pas du tout contents de la façon dont ils ont été payés. La Cour des comptes remarque des retards considérables dans la signature des contrats de travail, quand ils sont signés. Et évidemment, des disparités de rémunération suivant la région où vous étiez. Alors qu'en fait, vous faisiez exactement le même boulot, le même encadrement, mais on ne sait pas pourquoi vous n'étiez pas payé pareil.
Ça dépend s'il y a le soleil ou pas.
Je ne sais pas. Autre problème soulevé par la Cour des comptes et par le rapport parlementaire, la prédominance des contrats d'engagement éducatif. Est-ce que vous connaissez ça, Madame Henriette ?
Oui.
Régi par l'article L432.1 du Code de l'action sociale et des familles.
Et non pas par le Code du travail, nous sommes bien d'accord.
Absolument, qui normalement sont réservés aux personnes exerçant des fonctions d'animation de manière occasionnelle. Voilà, voilà, qui n'était évidemment pas du tout adapté à faire le SNU. Voilà, c'est bien une fois de plus. Bon. Un autre truc qui est quand même croquignolesque, c'est le marché concernant l'habillement, puisque quand même, il a fallu donner un uniforme à ces jeunes.
Et oui, ils ne pouvaient pas le faire tout nu.
Et non. Alors, comme il n'y a jamais eu le nombre de personnes attendues, mais qu'on ne savait pas trop, on a fait ça au doigt mouillé. Vous voyez, par exemple, en 2022, on a commandé 400 000 uniformes.
Bon, on savait pas du
tout. 400 000 ? Ouais, on ne savait pas du tout combien ils seraient. Et comme il n'y avait personne pour gérer les stocks, des tenues neuves, on estime donc dans le rapport que 20% des crédits consommés ont été jetés à la poubelle parce que les uniformes, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas s'ils ont été utilisés, oui. On ne sait pas, voilà.
Non mais 400 000 en plus, c'est bien trop en fait au regard du dispositif.
Oui, mais ils espéraient que sur la durée, vous voyez, mais en fait, comme il y en a, on ne sait même plus où ils sont. Donc, 3,6 millions d'euros dépensés à l'été 2023 et 20% des crédits, on ne sait pas exactement
Madame
où
Ginette,
ils sont partis.
Vous dites ça, vous êtes à courte vue parce que vous comptez un uniforme par personne, mais il faut être ambitieux.
Allez, encore un petit clin d'œil à Madame Henriette, puisque quand le SNU prenait l'eau de toutes parts...
Comme si j'avais une quelconque part dans ce dispositif.
Non, vous allez voir.
Ah, où êtes-vous?
Oui, c'est, en fait, c'est moi. C'est le, tout, tout ça. Le, non, mais... le lever au drapeau, tout ça, c'est moi.
On en a parlé.
Et d'ailleurs, la musique diffusée, c'est moi aussi qui l'ai choisie.
Ouais, bah, ça ne devait pas être
triste. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous.
Non, c'est juste que quand
non,
le...
je tiens à préciser aux auditeurs qu'en fait, je ne sais pas pourquoi M. Edmond
mais
me
si
fait des clins
voir,
d'œil là-dessus.
Parce que quand le SNU prenait l'autre toute part, la personne qui s'est dit bah, peut-être le plus simple, c'est de refiler ça à l'éducation nationale, c'est un sénateur creusois qui s'appelle Jean Sanetas.
Et donc
Eric,
mais on sait que vous êtes un fan, une fan de Jean Sanetas.
Ah non, mais là...
Eric Jean Sanetas.
Voilà, en fait... Non, mais vous savez, la Creuse, il y a plus de deux personnes. Ils ne se connaissent pas tous. Ça devient un peu vexant, en fait.
Alors, on a parlé des problèmes de transport. Donc, les jeunes étaient oubliés à la gare. Hein, ils ne savaient pas comment rejoindre l'endroit où ils devaient faire leur SNU. Bon... On a évidemment, tout le monde en avait entendu parler à l'époque, puisqu'en juin 2019, une vingtaine de volontaires étaient tombés de malaise, puisqu'ils étaient restés debout en pleine chaleur. Bon,
oui.
Bah, pouf, à Évreux, je ne savais même pas qu'ils pouvaient faire chaud à Évreux.
C'est la faute à Voltaire, tout ça.
Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu des punitions collectives aussi, une centaine de volontaires réveillés en pleine nuit à Strasbourg et soumis à une séance de pompe. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Gros dérapage aussi en Corse, vous voyez, eux, ils ont eu droit à la mer. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce SNU, mais en fait, visiblement, il y avait un des jeunes qui d'habitude faisait un trafic de drogue et il a voulu le reproduire pendant le SNU. Donc, les gendarmes passaient leur temps à intervenir, il y avait des tensions, des vols, des menaces de mort. Enfin, ça avait l'air très sympa comme séjour de cohésion.
Décidément, on n'aime pas l'entrepreneuriat en France.
On n'aime pas la réussite.
On a aussi le classique, et ça marche bien pour la cohésion. Ça, je dois avouer que c'est là, et au moins, ils vont s'en souvenir tous. 17 jeunes pris de vomissements, d'étourdissements, de crises de panique en plein bivouac à 2500 mètres d'altitude dans les Hautes-Alpes.
Alors ?
Et suite à une intoxication alimentaire.
Avec ?
Avec quoi ?
Mais je ne sais pas.
Ah, on
ne
sait pas.
Bah,
vous voulez savoir pas ? Avec quoi ? Je ne sais pas. Mais ils ont mangé un truc frelaté. Ils étaient tous en train de vomir.
Ça doit être tellement... Alors...
Ils ont tenu le saut chacun à leur tour, donc ça, la cohésion, c'est
et,
top.
Et pas seulement, mais ça doit être tellement inconfortable.
En tout cas, de sacrés souvenirs.
Oui, ben, ça a dû faire peur aux marmottes.
C'est ça, ça a fait des souvenirs.
Alors évidemment, l'une des façons de vanter le SNU, c'était la cohésion des jeunes et puis le fait qu'il rend mixité sociale, tout ça.
Alors, nous sommes ensemble.
Voilà, alors il faut savoir
tous
que...
Tous égaux devant le vomito. Et en plus, ça rime.
Que les jeunes issus des QPV, j'adore, hein, c'est magnifique.
Les
comme
quartiers
nom.
Des politiques de la ville.
Ouais, mais c'est moche quand même.
C'est le quartier prioritaire de vie.
Bon, voilà. Alors, en tout cas, bon, ben, ces jeunes-là ont très peu fait le SNU, on se demande bien pourquoi. C'est là où on a eu le plus de déperdition entre les candidatures confirmées et les jeunes qui arrivaient effectivement au séjour. Donc, évidemment, ça n'a pas du tout marché en tant que... ouais. Et d'autre part, donc, l'idée, c'était donc que les jeunes s'intéressent plus à la France, aux missions d'intérêt général et tout ça sur le long terme.
Et il y a un petit dispositif alternatif pour ça, ça s'appelle l'école.
Oui, on va y revenir à la fin, Madame Henriette. Et donc, eh bien, pour l'instant, toutes les études montrent que le séjour de cohésion n'a absolument rien changé par rapport à ça. Aucun surcroît d'engagement des jeunes depuis la création du SNU dans les associations ou ailleurs.
Eh bien, écoutez, vous auriez dégueulé au bord d'un rocher pendant toute une nuit. Vous verriez si ça vous avait renforcé l'esprit de cohésion, justement.
Alors, suite à leur rapport, le rapporteur Idi Boumerti de la France Insoumise... à tirer ses conclusions, je vais vous les donner, et ensuite je vous donnerai la conclusion, pareil, de Maxime Michelet, mais lui c'est la droite républicaine de Ciotti. Donc vous allez voir, ils n'ont pas retenu la même chose. Un truc qu'ils ont retenu, c'est que le SNU ne sert à rien. Donc Idir Boumeti pour la France Insoumise pense qu'il faut supprimer le machin. Par contre, il juge nécessaire d'instaurer la gratuité intégrale de l'école publique, en assurant la prise en charge par l'État des dépenses actuellement supportées par les familles, comme les frais de cantine, les fournitures scolaires, les transports ou les activités périscolaires.
Alors, sur le fond, voilà, chacun pense ce qu'il veut, mais quel rapport avec le SNU ?
Parce que le SNU, il y avait cette espèce de truc, vous voyez, que la jeunesse soit à égalité, qu'on relance la jeunesse et tout. Lui, il dit, oui, pour relancer la jeunesse, moi, je propose qu'en fait, l'école retrouve sa place centrale, en fait, voilà, de lien, de cohésion et tout ça. Mais pour ça, il dit qu'il faut que plus de choses soient gratuites dans l'école. On pourrait en parler, en disserter. Donc lui, bon, par contre, évidemment, c'est assez cher. C'est 6,2 milliards d'euros, estime-t-il. Second point qu'il pense, c'est par rapport à l'emploi local pour la cohésion sociale, toujours, et soutenir l'accès aux jeunes, à l'engagement et tout ça. Eh bien, il dit qu'il n'aurait peut-être pas fallu enlever tous les dispositifs qui permettaient aux associations d'employer des jeunes.
Tiens donc.
Voilà, ça c'était formateur et tout ça. Donc maintenant qu'il n'y a plus de sous, ben, il n'y a plus de jeunes dans les assos. Voilà, c'est comme ça. Alors, ce qu'a retenu Maxime Michelet, c'est tout à fait autre chose. Mais bon, Madame Henriette l'a évoqué tout à l'heure. Il a trouvé, parce qu'une des enquêtes de satisfaction, les jeunes qui faisaient le SNU, on rappelle que 30% étaient issus de familles de militaires, trouvé que monter les couleurs le matin, c'était quand même super fun. Donc, Maxime Michelet dit qu'il faudrait un mât dans chaque établissement scolaire et que à la première heure de chaque semaine et à la dernière heure de chaque semaine, on rassemble tous les élèves pour le monter.
La Russie de Poutine, quoi.
Je sais pas pourquoi faire. Bon, voilà. C'est super. Merci, Maxime.
Bon, très bien.
Attends, rien.
Ok.
Coup de l'opération ?
De mettre un mât dans chaque... Oh, ça doit pas être très cher. Alors, on trouverait bien un gars pour planter un poteau et on trouverait bien un drapeau quelque part, hein, je sais pas. Après, que ça marche tous les matins, faudrait trouver un mec qui joue du clairon, déjà, je vois. Bon, c'est pas grave. Allez, Madame Ginette, c'est à vous.
C'est dur d'enchaîner sur une chose pareille, quand même.
Oui. Mais,
on va pas se mentir.
C'était un chausse-trappe qui vous a été tendu.
Exactement. Mais bon, on a quand même trouvé, c'est un travail d'équipe, 3-4 petites bêtisounettes. La première se passe en Suède. Alors, ne parlant pas le suédois, je ne me risquerai pas au nom du patelin. Pardon.
Kiruna,
me souffle-t-on dans l'oreille. C'est la ville la plus au nord et en fait, elle est menacée par un glissement de terrain.
Ah ben on en parlait en début d'émission, oui.
Voilà, c'est ça. Sauf que dans cette ville, il y a une église en bois qui est considérée comme l'un des plus beaux monuments du coin, voire de la Suède. Donc, quelles solutions ont-ils trouvées pour sauver ce monument ?
Oh ben ça, c'est facile, hein, c'est tout en kit. On démonte, on remonte plus loin.
Non, alors, ce n'est pas tout à fait
mais
ça.
Non, à mon avis, ils l'ont soulevé, ils l'ont déplacé, oui.
C'est exactement ça. Ça fait quelques jours qu'ils la déplacent à raison de 500 mètres par heure parce qu'ils sont obligés de faire ça tout doucement. Et donc, cette église se balade dans la Suède à petite vitesse. Donc, forcément, ça crée une sorte d'animation. Et, ça crée même une sorte de running gag. Hein, les gens suivent, etc. Donc, elle se déplace à raison. Voilà, c'est 500 mètres par heure pour vous donner une idée de la vitesse.
C'est quand même vachement moins rapide que les oiseaux migrateurs, mais elle aussi, elle va vers le sud.
Exactement.
Et ils font les messes dedans quand même ?
Je suis pas sûre, non.
Bon. Oui, ça doit pas être simple non plus pour les groupes de métal sataniste là-bas. Là, ah, une église.
Ça, j'y pensais.
Et oui,
ils arrivent, il n'y a plus l'église.
Ils sont obligés de courir après avec leurs allumettes.
Et vous essaierez de courir avec des futs en sky moulant. Vous m'en direz des nouvelles.
Hein ? Exactement. J'ai juste eu une petite soufflade dans l'oreille. On ne dit pas messe, on dit culte. Car ce sont des protestants.
Dans le culte, alors.
Si nous... Oh non. Faute. Carton jaune.
Tant pis pour mes fesses. Alors, ben oui. Mais je pense que c'est une entreprise américaine parce qu'ils sont très, très forts pour ça.
Ils déplacent les églises.
Je vais pas dire de nom, mais je connais même une personne. J'aurais jamais passé venant cela d'elle, qui regarde une émission où pendant toute l'émission, c'est ça. Vous voyez les Américains qui déplacent des maisons sur des camions.
D'accord.
Oui,
ça existe.
Alors d'accord. Si vous habitez près d'une église, regardez-la bien parce que peut-être demain matin, il n'y sera plus. Cette entreprise sera passée dans la nuit et hop, ils vous chourent l'église.
Bim.
Il s'en passe des trucs en Suède quand même.
Bim, bim, bim. Mais sinon, je voulais aussi vous amener un peu en Allemagne, dans un EHPAD où 5 vieilles dames ont disparu.
Ah.
Et ils ont fini par les retrouver, happy ending. Mais où les ont-ils retrouvés ?
À un concert de métal.
Non.
Dans un tripot.
Oh non, très loin de là.
Ah, dans un monastère, un truc comme ça.
Oui, elles sont retournées. C'était cinq vieilles religieuses qui n'avaient aucunement l'intention d'être placées en EHPAD et qui donc ont fugué collectivement pour retourner dans leur confrérie religieuse.
Excellent.
Et pourquoi elles avaient été virées de leur confrérie? Moi, je pensais que les bonnes sœurs...
Parce qu'estimant qu'elles étaient en dépendance, c'est un EHPAD, hein, donc ça veut dire qu'elles devaient avoir quelques soucis
de
santé.
Mais enfin, quand même, les bonnes sœurs entre elles, la charité, Jésus, tout ça.
Alors...
Oui, enfin...
Jésus, il n'est pas là pour enlever les couches, d'accord, mais bon...
Des vieilles bonnes sœurs retraitées dans une confrérie, il y a peu de chances qu'elles soient médecins. Hein.
Alors, monsieur Edmond, vous apprendrez, et je suis étonnée que vous ne le sachiez déjà, que les congrégations religieuses ont des EHPAD. Parce que effectivement, il faut gérer aussi le vieillissement du personnel religieux. Non, c'est pas le personnel.
Des religieuses.
Voilà.
D'accord. Et qu'est-ce qu'il fout, Dieu ?
Eh ben, je sais pas. Il regarde les gens qui s'évadent dans l'EHPAD. Ouais.
Alors, si on pouvait répondre à cette question, probablement cette émission n'existerait pas.
Non, mais excusez-moi, si elles ont réussi à s'enfuir et tout, c'est qu'elles n'étaient pas totalement grabataires quand même.
Ah, je croyais que vous alliez dire qu'elles étaient mal surveillées.
Ah, bah aussi.
un peu de sécurité dans les EHPAD.
Ça se trouve, elles couraient après le camion où il y avait l'église dessus.
et je voulais finir par le Canada. Il y a eu, alors ça arrive souvent, un début d'incendie dans un petit massif broussailleux. Les pompiers sont arrivés pour éteindre l'incendie. Et évidemment, il y a une enquête pour déterminer mais d'où donc venait ce feu. Et je vous pose la question, mais d'où donc venait ce feu?
D'une cigarette?
Non.
De deux cigarettes?
Il n'y a pas de cigarette dans l'histoire, on va tout de suite arrêter là.
Voilà, c'est pas la peine de compter jusqu'à 1 million.
De Monsieur Kogan qui faisait un barbecue?
Non. Du moins pas que je sache, mais c'est pas la conclusion de l'enquête en tout cas.
En tout cas, d'accord, pas de... Voilà, c'est les écureuils qui s'amusaient à jouer avec des loupes.
Non, mais vous vous rapprochez presque.
Oui, non, mais de toute façon, les écureuils...
Non, c'est pas les écureuils du tout. Non, c'est un...
Non, parce qu'on sait qui c'est les écureuils. Bref, j'en dirai pas plus.
Attendez, c'est un oiseau qui quoi ?
C'est un oiseau qui a priori accidentellement, j'imagine, lâché le poisson qu'il avait dans la bouche. Le poisson est tombé sur des câbles électriques et ça a foutu le feu à la forêt.
Ah oui, parce que comme il était mouillé, tout ça...
C'est carrément pas de bol.
C'est pas de bol pour le poisson, déjà. C'était vraiment pas son jour. On va commencer par là.
Ah, il était bien grillé. Ah, vous voyez, j'étais pas loin du barbecue.
Oui,
quand même.
Voilà, il y avait quand même une notion de barbecue.
Voilà, donc j'avoue que ça m'a fait rire, surtout que ça a commencé par le rapport d'enquête de points. C'est un poisson qui a causé l'incendie. Et là, on se dit, pardon.
Oui, c'est...
Et pour une fois, c'était ni les écureuils, ni les ratons laveurs qui avaient foutu le bordel.
Exactement, c'est un poisson dont c'était pas du tout le jour.
C'est spécial.
Ouais.
Aïe.
Madame Henriette.
Voilà.
Vous avez fini, Madame Ginette?
Oui, tout à fait.
Alors,
je passe
bâton de parole à Madame Henriette.
Ah non, mais les transitions, c'est âpre, là, ce soir. Hein.
Non, mais il faut avancer, on n'a pas que ça à faire. Oh.
Alors, moi, je voulais ce soir vous. Deux petites chroniquettes, juste pour vous dire que des fois on peut faire des trucs on peut faire des trucs pour, comment dire, alors pas compenser, ne rêvons pas, mais être un tout petit peu moins des parasites dans notre
biotope. Madame Henriette, moi je me sens très bien, enfin quand même, qu'est-ce que c'est que ça?
Eh ben voilà, c'est bien ça le problème. Nous apprenons dans un article du Monde, et là aussi, Madame Ginette, qui aurait pu prévoir, que la destruction des espaces naturels a été largement sous-estimée par l'Union européenne. Oui, alors... Donc, ce sont des journalistes scientifiques indépendants qui ont mené l'étude et qui se sont aperçus que, sans doute, on avait oublié pas mal d'hectares artificialisés dans les calculs. Et surtout, l'objectif de zéro artificialisation nette en 2050 s'éloigne à grands pas du champ des possibles. Bon, j'ai envie de dire,
Non, mais c'est mort, Madame Ariette. Arrêtez de vous accrocher à ce genre de rêverie.
Voilà, donc la loi, de toute façon, bon, on est en France, donc on est bien placé pour savoir que les réglementations contre l'artificialisation, ça ne fonctionne pas. Enfin, en tout cas, ça ne se met pas en place. Bref.
Que peut-on faire? Alors, vous avez dit qu'on pouvait
Exactement.
Faire quelque chose.
Exactement. On ne va pas s'apesantir sur le sujet parce que de toute façon, on n'est tellement pas étonné. Ce qu'on peut faire, c'est faire de la science participative parce que l'histoire du décalage de calcul, c'est parce qu'en fait, l'Union européenne, quand elle calcule l'artificialisation, elle prend de très grandes surfaces comme unité de données. Or, l'artificialisation, elle peut avoir lieu sur des surfaces moins importantes. Donc, l'association de journalistes qui s'appelle, je vais les retrouver...
Vous êtes dans Chemin du Bien, si vous ne comprenez rien, c'est normal.
Mais non, vous n'avez pas compris ?
Si, allez-y, c'est la rubrique scientifique.
Donc, le groupement de journalistes qui s'appelle Green to Grey, hein ? Donc, lui a utilisé des unités de mesure un petit peu plus petites. Et... l'idée, ce serait vraiment de descendre pour avoir une estimation très précise des espaces naturels et agricoles, puisque c'est quand même beaucoup des espaces agricoles, en fait, qui sont détruits. Ce qui pose la question aussi de...
Enfin, faut bien se nourrir, Madame Ariette.
Oui, mais ça pose la question aussi de comment on réduit l'utilisation des pesticides si on a moins de surface pour cultiver et qu'il faut des rendements toujours supérieurs.
Ah bah pour les réduire, il suffit de voter la loi du plomb, c'est facile ça.
Donc, cette association de journalistes, de journalistes scientifiques...
Nous invite.
Vous invite à participer. Donc, sur leur site, ils cherchent des volontaires pour participer donc à cette étude. Il va falloir, je suppose, analyser des images. Vous pouvez aller donc sur le site de Green to Grey pour participer donc au comptage de ces surfaces en voie d'artificialisation, on va dire ça, voilà.
Je suis obligé de vous couper, Madame Ariette, donner la parole à Monsieur Kogan, je crois que j'étais un peu long, et puis on revient vers vous si
Allez,
le temps nous
bien.
Le permet. Mais sinon, vous la gardez, elle sera périe
Pas du tout.
Ah bah voilà, Monsieur Kogan, c'est à vous alors.
Ah, pardon. Alors, j'avais bien trouvé aussi que le SNU, bon, c'était quand même un peu long de parler à ce point-là d'un projet aussi peu passionnant. Mais c'était votre choix de chronique, qu'est-ce que vous voulez? Alors, mes chers compatriotes, un jour peut-être Macron nommera-t-il un Premier ministre créé par l'IA. Et oui, parce que vous avez peut-être vu que les Albanais avaient déjà donné, donc je me demande si on n'avait pas déjà parlé de ça, un poste dans le gouvernement à un secrétaire d'État, je crois, virtuel. Et donc,
l'idée étant qu'il ne puisse pas être corrompu.
Voilà, absolument. Et là, oui, c'est vrai, c'est tellement sûr, le monde virtuel. Et donc, on a donc
des gens tellement recommandables, en effet.
Voilà, une actrice, Tilly Norwood, donc, qui serait donc une actrice IA. Voilà. Évidemment, ça pose plein de problèmes. Il y a même un producteur qui a dit « ça va être difficile, elle sera toujours en retard ». Je ne comprends pas du tout cette phrase, mais je trouvais ça amusant.
Après, nous, on a bien un Premier ministre virtuel pour l'instant.
Oui, c'est ça. Et tout comme, rassurez-vous, je ne l'ai pas très bien compris non plus, le livre qui vient de sortir qui s'appelle « Psychanalyse de la Bretagne », une psychanalyste, donc, Yann Lucas. Si ce n'est que, au-delà de la plaisanterie, c'est très sérieux, puisque, bon, évidemment, l'âme celte a déjà été étudiée 50 fois, mais pour expliquer la différence, comme il y a une différence génétique, par exemple, entre les Basques et les autres Européens, là, il y a une différence, soi-disant, psychologique. Alors, moi, je veux bien qu'on parle de ça, mais en vérité, le psychanalyste, il finit surtout par dire que les Bretons... sont en train de devenir des Français comme les autres, c'est-à-dire acculturés, uniformisés, et donc ça le fait déprimer. C'est quand même triste pour un psychanalyste.
Ouais. Attendez, Monsieur Kogan, le mec, il n'est pas normand par hasard?
Ah ben, je ne sais pas, vu son nom, peut-être pas, mais qu'est-ce que vous voulez. Voilà. Et après, moi, je m'en fous qu'il garde le Mont-Saint-Michel, je trouve ça pas très intéressant. Donc, moi, je viens vous parler de cinéma. Alors, et de petit écran. Alors, le grand écran, un film aujourd'hui. Alors, le film chelou de la semaine, c'est Continental 25. Alors, c'est le réalisateur roumain Rada Jude. Alors, je ne sais pas comment on prononce ça. Ours d'or à Berlin en 2021 pour le très, très déjanté Bad Luck Banging or Loony Porn, où on pouvait... on pouvait voir quand même. Alors, je ne vais pas raconter celui-là, je vais essayer de m'apesantir sur Continental 25, mais on peut regarder toute la filmographie de ce réalisateur qui est absolument génial. Et donc là, il continue son exploration de l'âme roumaine, là, pour le coup. Mais là, c'est le portrait donc, d'une huissier de justice qui sent coupable après qu'il y ait eu un incident assez grave lors de l'expulsion d'un SDF. Et donc ça finit mal et elle vit très mal. Et donc on voit toute une série de scènes où elle parle de ça à ses amis, etc. Enfin, et en fait, c'est extrêmement satirique. On est plus proche de Almodovar, de Wim Wenders, d'ailleurs est évoqué à un moment du film, ou de Kusturica avant qu'il devienne complètement idiot, que du Ken Loach de la fin, ou disons plutôt le Ken Loach de Raining Stones et de La Part des Anges. Donc voilà. Donc on retrouve un de ses acteurs fétiches, d'ailleurs Gabriel Spayou, en clochard complètement dégueu et irrévérencieux. Et puis je découvre, moi, cette actrice Esther Tompa, actrice hongroise qui est parfaite en quadra un peu perdu, donc entre culpabilité, carcan moral et besoin d'air, visiblement. Bref, et puis on voit cette ville en pleine mutation, en clouille, qui est à l'image du pays, donc dans un chamboulement permanent. Et moi, je trouve que c'est une belle critique satirique de la société roumaine. Et je conseille donc ce film sincèrement. D'ailleurs, je vous conseille, donc, comme je vous l'ai dit, tous les films de ce réalisateur, y compris ses documentaires hein, qui ne sont pas piqués.
Alors, rappelez-nous le titre.
Le titre,
Continental 25.
Le titre, c'est Continental 25. Ça fait référence au projet d'hôtel provoque l'incident du début. Et donc, le prochain film d'ailleurs de ce réalisateur, ce sera un film sur Dracula. Et c'est pareil, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air absolument délirant, c'est génial. Voilà, donc petit écran, alors Dos Tumbas, c'est une série avec Alvaro Morte. Alors, cet acteur, on l'avait vu dans le rôle du professeur dans La Casa de Papel, où il jouait aussi Loghain dans la Roue du Temps. Donc, évidemment, quand on voit ce nom-là, on a forcément envie de jeter un œil. Et puis, moi, je l'avais trouvé très, très bien aussi dans La Maleta, un film qui était assez rigolo. Et là, on le retrouve donc dans cette histoire en trois épisodes, hein, c'est très court. Et on y retrouve aussi qui était Hariri dans la Casa de Papel. Et alors celle-ci, puisque c'est quand même au début centré pas mal sur elle, joue une grande mère éplorée depuis la disparition de sa petite fille, donc sans trace aucune. Et l'adolescente s'est volatilisée, mais on a retrouvé le corps de sa camarade, qui est donc la fille d'un ancien du milieu, qui est peut-être pas si rangé que ça. Et donc en peu de temps, dessine une intrigue très sombre. Basé sur le désir de vengeance qui va mener très loin. Et cet improbable duo, là, sur une voie dont on ne peut pas revenir indemne. Voilà. D'où le titre, d'ailleurs, Dos Tumbas, on s'en doute bien. Alors là-dessus, il y a les paysages de l'Andalousie, à côté de Malaga, là, et, voilà, qui aident sans doute à faire passer quand même le fait que c'est quand même pas totalement génial, ce scénario. Mais on passe quand même un bon moment, voilà. Et ça se déguste avec un verre de gazpacho, par exemple. Voilà, et évidemment, c'est sur une plateforme qui commence par Net et qui finit par Flix.
Et c'est en espagnol, donc.
En espagnol. Alors, peut-être que si on est très court, je vous parlerai d'une autre série la prochaine fois.
Non, mais avancez pour l'instant. Je vous ai laissé du temps, c'est Madame Ariette qui souffre.
La pauvre. Alors, la série dont je vais vous parler maintenant... a un seul point commun avec la précédente, c'est la langue. Et oui, là il y a aussi une ado perdue quand même en début, mais très rapidement la comparaison s'arrête là. El Eternauta, c'est le titre de cette série, El Eternauta, c'est une série argentine avec une des stars du pays, hein, Ricardo Darín, qu'on a vu dans Neuf Reines, dans Everybody Knows ou dans El Presidente, acteur vraiment génial. Donc là, c'est l'adaptation d'une BD de science-fiction qui oscille entre le post-apo, le fantastique, qui se joue pas mal des codes et qui se joue pas mal avec nos nerfs, hein, pour le dire. Donc l'intensité monte crescendo dans cette histoire. Voilà, où d'un seul coup, en fait, une étrange neige toxique s'abat sur Buenos Aires et balaye toute vie, ou presque. Donc, Juan et son petit groupe d'amis vont devoir vite découvrir comment s'en sortir et vite comprendre que ce n'est que le début de la catastrophe et que survivre, ben, ça ne va pas suffire. Il va falloir aussi se battre, se défendre contre un bien étrange ennemi. Et voilà, alors j'ai appris que la deuxième saison était imminente, mais déjà, vous passez les 6 épisodes là, de la première saison, bon, bah, courage, voilà, bravo, chapeau, parce que faut s'accrocher un peu.
C'est-à-dire, c'est gore, c'est angoissant, c'est quoi?
C'est angoissant, ouais, c'est angoissant. Faut pas s'attendre à des effets spéciaux de folie, mais l'intrigue est très solide. Et c'est ça, justement, la différence avec une série américaine, parce que ça ressemble évidemment à une série américaine, si on veut. Sauf que, vu l'intensité, vu comment ça monte, les personnages, on les trouve très crédibles tout de suite, quoi. Et puis, je conseille, mais le petit plus en plus, c'est que ce qui fait aussi de cette particularité, c'est que c'est une série donc argentine, je l'ai dit, et qui plus est, qui aborde en fond, hein, les traumatismes liés à la guerre des Malouines. Donc on a en plus un fond culturel, une historicité qui est passionnante.
Oui, il y a que du rigolo dans cette série quand même. Hein,
ah, on se marre pas trop, non. Non. Non, on ne se bat pas du tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Eh bien, que lundi, nous serons le 6 octobre. Alors, que s'est-il passé le 6 octobre, moins 105?
Moins 105?
Ouais.
Dans quel coin?
Oh, dans le sud. Dans le sud,
dans le sud, vers la Grèce ou vers Rome?
Alors, un peu moins loin. Mais,
donc,
mais
dans la Narbonnaise, peut-être?
Eh bien, tout à fait, puisque c'était ce qu'on appelle la bataille d'Orange. En vérité, c'est cette bataille qui est donc restée, si on veut, dans l'histoire, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est quand même très, très, très loin, hein, entre les Cimbres et les Teutons. Mais c'est comme ça que ces noms sont rentrés dans l'histoire. Ces deux tribus celto-germaniques, hein, on a un peu du mal aujourd'hui encore à les qualifier, contre les Romains. Et d'ailleurs, les Romains perdent. Mais cette bataille sera 50 ans avant. Le signe de ce qui va se passer plus tard
avec Jules,
un épisode précédent, donc la guerre des Gaules. Voilà, joyeux anniversaire à mon camarade Jerry Adams, hein, qui aura donc 77 ans, à l'acteur gallois Ion Gruffudd, que vous avez sans doute vu, c'est un visage très connu des séries américaines, anglaises, etc. Aussi à Shuri Atomi et à Jazz Jennings. Donc là, concrètement, si vous êtes anglais, protestant, LGBT-phone et un peu prude, vous venez de faire une attaque. Donc,
c'est super, monsieur Gauquin.
Donc, voilà, surtout si vous savez qui sont les deux personnages dont j'ai parlé à la fin. Et écoutez, c'est aussi l'anniversaire d'Éric Foissier et de Dominica. Donc, c'est vous dire à quel point le 6 octobre, qui est la veille d'une date tragique, hein, tout le monde le sait, est un chouette, chouette jour d'anniversaire, visiblement. Voilà, je voulais saluer aussi quelques personnes disparues. Je vais finir par un moment d'émotion, donc je vous le dis tout de suite. Alors évidemment, des réalisateurs du cinéma indépendant comme Henry Jaglone, l'américain, et la hongroise Judy Telek, les musiciens Eric Dreja et Michel Jourdan, et les écrivains, alors là, et des personnages, il y en a plein. Anne Granger, la polardeuse historique anglaise. Je pense aussi à Claude Raffestin, à Tony Harrison, à Francis Delvaux, à Bernard Freyot, Éric Derop, le dessinateur. Évidemment, je finis par deux femmes. Voilà, on a échangé rapidement avec Madame Henriette tout à l'heure. Alors, je lui laisse Elle voulait sans doute parler d'elle. Et
non,
je sais pas
pas,
si...
non, non, je vous laisse ce soin parce que je voilà.
Bon, ben, je vais être très court parce que je viens d'apprendre une autre nouvelle. Donc, évidemment, voilà. Évidemment, tout le monde connaissait, ou presque, j'espère, Jane Goodall. Alors, peut-être que les jeunes générations ne connaissaient pas cette éthologue et anthropologue anglaise qui est donc disparue à 91 ans. Et... voilà, la seule chose que je peux vous dire, c'est de revoir le documentaire sorti en 2020 qui s'appelait Jane, un message d'espoir, pour vous faire comprendre à quel point cette femme a été majeure dans la compréhension, non pas seulement des chimpanzés. Hein. Son livre, Les chimpanzés et moi, a été traduit en 48 langues. Elle a été majeure dans le fait que, puisqu'elle a bouleversé la connaissance qu'on avait des primates, mais elle a bouleversé sans doute bien des choses avec son ami Attenborough. Elle a fait bouger les lignes. Et en tout cas, elle c'était certes une écologiste un peu radicale, on dirait certains aujourd'hui, mais c'était une femme exceptionnelle. Et cette femme mérite tous les hommages et tous les honneurs. Je fais très court parce que je viens d'apprendre le décès de Camille Senon. Et Camille Senon, c'était le dernier témoin du massacre d'Oradour-sur-Glane. Elle était dans le fameux tramway qui est arrivé pendant le massacre. Camille Senon, c'était une syndicaliste, femme d'un courage exceptionnel. Elle avait d'ailleurs, on s'en souvient, renoncé à une médaille en refusant de se compromettre. Jusqu'au bout, cette femme aura été courageuse. J'ai eu, si on peut dire ça, avec quelques camarades, l'occasion de la voir une dernière fois, il y a quelques mois, en visio. Elle nous a fait un coucou. Elle a été courageuse jusqu'au bout et une défenseuse de la liberté, des droits des femmes et des droits des salariés jusqu'au bout. C'est une vraie héroïne. Et pour le coup, je rappelle aussi qu'il y a eu un film sur elle qui s'appelle, si je ne m'abuse, ça y est, je vais avoir un trou, qui s'appelle Camille Senon, la dame du pays rouge. Voilà, donc je vous conseille d'aller louer ce film dans vos médiathèques locales. Il y est sans doute. Voilà. Et c'était. Alors, il y a eu d'autres personnages qui sont morts. Il y a aussi Assata Shakur, que les Américains n'auront jamais réussi à attraper, qui est décédé là, il y a quelques jours, qui était exilé à Cuba. Mais voilà, je pense à Camille et c'était ma camarade. Voilà. Donc, je finis en lui rendant cet hommage et je vous souhaite. Avant, peut-être en vous donnant quelques dates très rapides, mais j'ai peut-être pas beaucoup de temps, donc je m'arrêterai presque là, mais je voulais quand même vous dire qu'il y a une conférence sur Ben Barka le 9 octobre à l'espace d'Auriac et qu'il y a, entre autres choses, un concert de nos amis Odonata le vendredi 10 octobre à l'espace d'Auriac aussi. Donc voilà, je vous donne seulement ces deux adresses-là, ces deux dates-là. Excusez-moi, je suis très troublé. Voilà,
mais c'est pas grave, monsieur Kogan. Vous avez bien raison de rendre hommage à Camille Senon, qui est un visage qui est connu au moins pour les gens qui allaient aux commémorations d'Oradour, puisque je pense qu'elle n'a pas dû en manquer beaucoup.
Hein. Absolument. Voilà. Et elle avait connu un autre moment extrêmement tragique dans sa vie, qui était une manifestation qui avait mal tourné, où il y avait eu. Il y avait eu plusieurs victimes contre la gare d'Algérie. Voilà. Le fameux métro Charonne, pour ceux pour qui ça dit quelque chose.
Voilà. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs personnes, ça dit quelque chose. Ben, du coup, il nous reste 2-3 minutes. Madame Henriette, vous pouvez faire votre deuxième chroniquette.
Eh bien, très rapidement, donc, je m'appuie sur un tout petit article du Musée national d'histoire naturelle, un endroit fortement recommandable, qui nous explique que les hérissons peuvent vivre, ces petits mammifères adorables, peuvent vivre environ une dizaine d'années, mais actuellement, avec les conditions que nous proposons, en général, ils ne vivent pas plus de 3 ans. Et notamment parce que tout simplement, alors il y a évidemment le danger routier, mais aussi parce qu'ils n'arrivent pas à passer l'hiver, parce qu'ils ne trouvent pas assez à manger. Ils ne trouvent pas assez à manger pourquoi ? Parce qu'ils mangent les limaces, les lombriques, des petits insectes qu'il y a dans nos jardins. Et grâce au nettoyage scrupuleux que nous faisons, ainsi qu'aux produits divers et variés que nous utilisons, eh bien il n'y en a plus assez. Alors, pour éviter aux hérissons, vous n'allez peut-être pas faire des lâchers d'insectes, mais pour aider les hérissons à passer l'hiver, vous pouvez, dans votre jardin beaucoup trop propre où il ne peut pas s'abriter pour l'hiver, vous pouvez lui faire deux sortes d'abris très faciles à faire. Vous prenez une planche, vous l'appuyez contre un mur en diagonale et vous mettez une chouette litière de feuilles sèches pour l'accueillir. Ou bien, si vous avez des bûches, vous mettez deux bûches dans un sens assez espacé l'une de l'autre et vous rajoutez des bûches par-dessus pour faire une petite niche sur le dessous avec toujours un chouette abri de feuilles. Le musée d'histoire naturelle vous conseille de prévoir un abri assez grand parce que finalement, les hérissons, quand ils trouvent un endroit chouette, ils aiment bien leur petit confort, ils aiment bien avoir leur aise, ils n'aiment pas que ce soit exigu. Et puis, si tout va bien... Eh bien,
Un petit lit Ikea qui vendent avec notice de montage pour le hérisson.
Si tout va bien, une femelle peut
passer par là.
Peut avoir.
Et dire, oh, lui, il a une baraque.
Peut avoir jusqu'à 6 petits. Alors, il faut prévoir suffisamment de place.
D'accord. Donc, tout ça, c'est sur le... Et il montre comment faire la cabane et tout.
Exactement.
Il y a des
images. Il y a un petit schéma. Mais enfin, vous savez, pour appuyer un petit bout de planche, le caler avec des cailloux et mettre des feuilles dessous, normalement, c'est à la portée d'un bricoleur... assez médiocre.
Non, oh, bah, dites donc, madame Mariette. Non, mais c'est bien d'avoir des idées. Bon, d'accord. Alors, sauvons les hérissons et allons donc voir des photos pour dire ce qu'on en pense, c'est ça
Et certaines associations disent que si vous trouvez un hérisson manifestement, enfin, qui a l'air mort parce qu'il ne bouge plus en hiver, foutez-lui la paix, mettez-le à l'abri si vous le pouvez, mais ne l'enterrez pas parce qu'il est peut-être tout simplement... en train de ralentir son rythme pour justement survivre à l'hiver.
D'accord. Alors c'est pareil pour les ours, hein. Si vous trouvez un ours,
oui,
ne le réveillez pas. Hein.
Mettez-le à l'abri.
Où il est, tranquillement.
Faites-lui un petit abri avec une planchette contre un mur. Non, ça va être plus compliqué, monsieur Edmond.
Je suis sûr qu'ils ont du mal à trouver aussi. Hein. Bon, d'accord. Bon, ben voilà, on va pouvoir se quitter. Monsieur Kogan, une date de plus, si vous êtes remis de vos émotions.
Ah, pardon. Alors, oui, éventuellement.
Eh ben, allez-y, ce sera n'importe quoi au niveau de la chronologie de ce jeu. M'ennuie bien, mais c'est pas grave.
Quand même, parce que une date en creuse, parce que ça me semble important d'en parler. L'espace Fayolle a repris sa saison, évidemment. Il y a d'ailleurs un joli petit livret pour les programmations.
Tout à fait.
La de spectacle, c'est très joli. C'est en format bouquin de poche. Et donc, le vendredi 10 octobre, eh bien, vous avez un trio qui viendra vous faire un peu de musique. Voilà, donc ça s'appelle Emma Alcala, avec Emmanuel Roux à la guitare et voix, et puis Axel et Thomas, donc en autres musiciens. Voilà, et puis il y a aussi, d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai tous les livrets en poche, donc vous avez aussi à découvrir ce qu'il va se passer dans un autre lieu important au Creuse, qui est le centre culturel Yves Furet, donc à la Souterraine. Et là, c'est un spectacle de cirque qui s'appelle « Laissez les poireaux derrière les barreaux ». Donc, ce sera le 9 octobre, et c'est donc du cirque, et c'est au centre culturel Yves Furet. Voilà.
Si vous faites partie de l'association de défense des poireaux, c'est le moment d'y aller pour exprimer votre désaccord.
C'est ça.
C'est sûr qu'à chaque spectacle, il passe un certain nombre de poireaux, mais pour connaître les artistes qui jouent ce spectacle, ils m'assurent qu'ils en récupèrent une majorité et qu'ils font des quiches et des soupes. Donc, vous voyez, rien ne se perd dans le monde du cirque.
Libérons les poireaux.
En tout cas, c'est un spectacle très rigolo.
Bon, bah, j'ai bien fait de parler de ça.
Hein. Bah, très bien, mais j'ai bien vu que c'est le titre qui vous avait attiré, Monsieur Kogan.
Oh, y a plein de choses. Hein. Y a un Shadow Comedy Club le 9 octobre aussi. Au Troquet culturel, vous avez un concert des Corgis à Limoges, et donc vous avez aussi évidemment plein de choses qui se passent, donc je l'ai dit à Nauriac, mais aussi, et j'en ai beaucoup parlé l'année dernière, vous avez plein de concerts qui recommencent au Limoget, bien sûr, là en côte, entre autres Bobby Dierninger qui viendra jouer donc mercredi 8, voilà, donc vous avez plein de choses à voir, à faire encore cette semaine.
Eh bien, merci Monsieur Kogan, merci Madame Henriette, merci Madame Ginette, et puis on se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
J'espère te le rendre quand heureuse dans tes...